7h50 minutes. J'espère que vous passez un bon matin. C'est un petit peu gris à l'extérieur. Là, on a 17 degrés, mais de très bons sujets à venir à l'émission, entre autres Commission Vigneault-Pelletier. On échangeait les sujets ce matin. J'ai comme l'impression qu'on nous aurons quelques étincelles. On passe à l'aspect santé avec la docteure Mélissa Généreux. Bonjour, Mélissa.
Bon matin, Steve.
La COVID, la fameuse COVID qui touche tout le monde, oui, mais pas de la même façon. Et c'est un peu le sujet dont on voulait parler ce matin. La façon différente, inégale dont elle a touché toutes sortes de couches, de tranches de la population.
Oui, puis je trouve que la transition avec la chronique de Bruno juste avant est parfaite parce qu'on est tous affectés et on voit, bon, c'est compliqué d'acheter ces électroménagers, mais vous allez voir que dans certains groupes, on n'est pas là, là comme défi, mais dans des défis vraiment plus de base, un défi de tous les jours. Je pense qu'un des groupes au sein duquel je dirais que la pandémie a pas seulement mis en lumière les inégalités, mais a clairement aggravé ces inégalités-là, c'est bien les personnes en situation d'itinérance. C'est intéressant qu'on se mette à décortiquer, là, les raisons sont multiples, parce que d'un côté, ce sont des groupes qui ont clairement plus de difficultés à se protéger du virus, mais d'un autre côté, on voit aussi que leur précarité s'est aggravée là, au fil du temps à cause de la pandémie. Donc, je vais peut-être un peu te donner là, certaines raisons plus précises. Au niveau de se protéger, quand on veut se protéger contre le virus, premièrement, il faut comprendre, il faut avoir accès à l'information, et on le voit que même monsieur, madame, tout le monde, de base, on a de la difficulté à démystifier le vrai du faux, à comprendre l'évolution des consignes qui changent là, de semaine en semaine. Donc, imaginez pour quelqu'un qui a à peine accès à Internet, qui a peut-être un niveau d'éducation un peu plus complexe, qui a toutes sortes d'autres défis dans son quotidien.
Des problèmes de santé mentale, dans certains cas, de drogue, de d'autres. Alors, imaginez la perception, qu'est-ce que vous êtes capable de seulement recevoir entre vos deux oreilles. Des fois, ça doit être assez flou.
C'est difficile.
Ouais, ouais.
Exact. Puis là, au-delà de ça, on a vu comment les technologies prennent une place centrale dans notre quotidien. Pas seulement pour travailler, bon, pour s'informer, on l'a nommé, mais pour socialiser, se divertir, maintenant pour commander nos biens et services ou tout simplement pour pouvoir bénéficier de programmes d'aide ou de soutien. Donc, mais pour ça, il faut avoir accès à Internet et les stratégies souvent utilisées pour les personnes en situation d'itinérance, bien, c'est les bornes de Wi-Fi qui sont disponibles publiques ou c'est les stations d'ordinateurs partagés. Mais tout ça, en contexte de pandémie, bien, ça a été soit restreint, limité ou carrément fermé dans certaines situations pour des raisons d'hygiène. Après ça, on dit « lavez-vous les mains souvent ». Mais tu as-tu pensé pour une personne en situation d'itinérance là, d'avoir accès à du savon, à une douche, à de l'eau? Ça fait partie des défis du quotidien. C'était comme ça avant la pandémie. Mm-hmm. Donc, les stratégies d'aller dans les toilettes publiques, les bibliothèques, dans les stations d'autobus pour pouvoir utiliser là, les lavabos puis le savon qui se trouve. Encore une fois, tout ça a été encore plus difficile en contexte de COVID. Donc, alors que tout le monde se lave les mains de façon frénétique, d'un autre côté, on a des gens qui n'ont pas les outils de base là, pour être capable de pouvoir respecter ces mesures-là. C'est un peu la même chose aussi pour la distanciation physique, là, parce qu'écoute, l'expérience de vie collective, ça fait partie du quotidien des personnes en situation d'itinérance, qu'on parle de dortoir, de salle de bain partagée. Puis finalement, ben, la mise en quarantaine, tu peux comprendre que si
ça
je te dis,
mets-toi
en quarantaine pour 14 jours, alors que tu n'as pas de chez toi, c'est doublement difficile.
Ben oui.
L'idée, c'est pas que toutes les personnes se retrouvent dans des refuges et qu'on ait des foyers d'éclosion dans les refuges. Mais au-delà de ça, il y a aussi la précarité, parce que l'autre chose à laquelle on pense pas, c'est qu'une personne itinérante qui vivait en termes de gagne-pain, de la vente de journaux, de la quête dans les rues, ramasser des bouteilles vides, ou encore la prostitution, mais tout ça, ce sont des moyens qui sont un peu moins accessibles ou sinon un peu plus underground. Je fais référence à la prostitution, donc dans des conditions encore plus dangereuses qu'avant. Et finalement, comme si ce n'était pas assez, bien, c'est sûr que le filet de sécurité sociale, les organismes communautaires, les services, les ressources qu'on pouvait offrir pour soutenir un peu, comme tu dis, la santé mentale, le bien-être ou prévenir la rechute dans des problèmes de drogue, par exemple, bien, tout ça, ce réseau-là est un petit peu plus faible qu'il était avant, encore une fois, à cause de la pandémie. Donc, finalement, comme je vous dis, oui, c'est plate d'attendre un petit peu pour ses électroménagers, mais je me dis...
C'est un malheur qui est quand même faible. Oui, c'est ça, exactement. Il y a d'autres couches de la société quand même qui sont touchées également de façon inégale lorsqu'on pense à cette pandémie-là.
Mais je dirais les jeunes qui vivent en contexte de pauvreté, ça les a énormément affectés. Donc, souvent, ce que les intervenants disent sur le terrain, c'est que depuis la réouverture des écoles, la rentrée scolaire, les jeunes qui étaient en retard le sont encore plus. Puis les écarts se sont creusés. Encore une fois, pour peut-être 3 raisons. Donc, on a demandé aux jeunes carrément d'apprendre en ligne. Mais pour ça, il fallait avoir accès à Internet, idéalement un ordinateur dédié. Puis je dirais aussi à des parents qui sont outillés, qui comprennent bien l'enseignement en ligne, puis aussi qui ont du temps pour ça. Donc, tu comprends que vraiment pas toutes les familles qui avaient ces conditions-là réunies, et d'un. De deux, ben, à l'école, veux pas, on a toutes sortes de services autres que les services pédagogiques. Je sais pas, moi, orthopédagogues, travailleurs sociaux, donc tout ça, ces services-là ont été moins disponibles pour les jeunes. Puis finalement, je dirais que les jeunes un peu plus vieux, la tentation d'aller travailler, l'attrait de l'autonomie financière, on l'a vu, il y a eu une embauche massive de jeunes pendant la période de confinement, puis progressivement de déconfinement. Donc, ces jeunes-là qui ont goûté à l'argent, qui ont goûté à l'autonomie financière, puis souvent aussi qui sont là pour aider leur famille à plus faible revenu, pourraient être encouragés de peut-être mettre moins d'efforts à l'école, voire même de quitter ou décrocher. Donc, on est très inquiets là, pour ces jeunes-là également.
On espère qu'il y a quand même quelques solutions au travers de ça.
Bien, je me dis, oui, c'est sûr qu'il faut être conscient dans toutes les mesures de santé publique. Là, en ce moment, on lutte beaucoup contre un virus, mais il faut vraiment être conscient de l'impact de ces décisions-là sur le psychosocial, sur les différents groupes plus vulnérables de la société. Ça, c'est un message très général, mais je dirais que de façon plus spécifique, nos organismes communautaires sur le terrain, on doit s'assurer qu'ils ont la capacité, qu'ils sont outillés pour vraiment agir comme filet de sécurité dans notre société. On a absolument besoin d'eux, à mon avis, parce qu'eux sont spécialisés pour couvrir les groupes que je viens de mentionner.
Merci beaucoup, Mélissa Généreux. On se reparle lundi prochain.
Ça fait plaisir.
Au plaisir.